Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire.
Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCF, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute.
RCL reçoit aujourd'hui Dominique Faure, maire de Saint-Aurin-de-Gameville en Haute-Garonne. Bonjour Madame la maire.
Bonjour Madame.
Votre commune vient d'être labellisée territoire engagé pour la nature. Quels sont vos engagements à ce titre et que va vous apporter cette labellisation?
Pour ce qui est de ce qu'elle va nous apporter, je dirais d'abord de la reconnaissance, beaucoup d'encouragement. Et puis, en fait, cela nous permet de nous inscrire dans une démarche de progrès en faveur à la fois de la biodiversité et des pratiques bas carbone. En fait, c'est un critère pour candidater à ce label. Nous devons impérativement nous inscrire dans une démarche de progrès en faveur de ces deux axes, à la fois la biodiversité et les pratiques bas carbone. Donc, on y voit... beaucoup d'intérêt, parce que ça permet aussi d'avoir accès à des formes de financement un peu originales. Voilà.
D'accord. Et quel type d'action allez-vous engager à ce titre?
Alors, nous sommes organisés autour de trois actions principalement. La première, nous avons plusieurs bois sur la commune. Et un particulièrement grand et intéressant de par son ancienneté, c'est le bois du Bousquet. Et en fait, dans le cadre d'un travail partenarial, parce que sur tout ce qui touche à l'écologie, à l'environnement, on travaille beaucoup avec une association qui est la SON, Saint-Aurin Nature Environnement, qui est une association communale. On travaille en partenariat avec Nature en Occitanie aussi. Donc on aime travailler avec l'ONF aussi, bien sûr, en partenariat. Et donc, dans le cadre de ce travail que l'on, et cette réflexion que l'on conduisait sur le bois du Bousquet, on s'est engagé à travailler sur trois axes, à la fois la préservation d'arbres à qualité, c'est-à-dire mais ne pas supprimer des arbres morts et les garder parce qu'ils favorisent et encouragent la biodiversité. On s'est engagé à installer des palissades d'observation des oiseaux parce que beaucoup d'arbres sont des arbres très hauts et que la faune et les oiseaux que l'on observe à grande hauteur, on ne peut absolument pas les voir d'en bas. Donc, ce sont des installations que l'on va faire en bois, bien sûr, et qui vont permettre aux plus jeunes, mais aussi aux adultes, d'observer les oiseaux. Et puis, on a une mare que l'on tardait à restaurer parce que c'était un assez gros investissement. Et on va restaurer cette mare. Donc ça, c'est le premier axe qui touche à la gestion durable de ce bois du Bousquet. Le deuxième, c'est quelque chose que l'on a entamé, mais ce que l'on va accélérer, c'est tout ce qui touche à la réduction de la pollution lumineuse liée à l'éclairage public. Donc, on a conduit des expérimentations sur deux quartiers où on éteint complètement l'éclairage public la nuit. Et on va travailler d'ici la fin de l'année sur d'autres quartiers, sur des plages horaires peut-être plus réduites ou sur des densités lumineuses affaiblies, mais pas en éteignant complètement des lampadaires. Et donc ces expérimentations vont nous conduire au 1er janvier 2023 à mettre en place et à délibérer sur un nouvel éclairage public, on va dire, parce qu'on a beaucoup renouvelé nos lampadaires en passant à des luminaires à LED et qui vont donc nous permettre d'avoir une nouvelle politique publique en matière d'éclairage public, mais on passe par cette année 2022 d'expérimentation. Et le troisième axe, on a la chance d'avoir des hirondelles depuis toujours en centre-ville de notre commune, et donc en partenariat avec l'association que je vous citais un petit peu plus tôt, qui est la SON, eh bien nous avons décidé d'installer des nids artificiels et des tours à hirondelles pour pouvoir préserver cette domiciliation des hirondelles quand elles migrent et qu'elles ont l'habitude de s'arrêter chez nous. Et comme bon, on est une commune qui se rénove, qui se requalifie, beaucoup de propriétaires font des travaux et donc on pouvait perdre cette nidation des hirondelles, et donc on a installé plusieurs nids artificiels à hirondelles.
Très bien. Alors, la politique communale en faveur du numérique est-elle tout autant engagée? Comment envisagez-vous la question du numérique à Saint-Aurin-de-Gameville?
Alors, vous dire en introduction, En fait, on a écrit conjointement avec nos agents, mais quand je dis « on », c'est l'ensemble des élus et les chefs de service, directeurs et puis spécialistes que l'on a dans la collectivité, donc de nos agents. On a co-écrit, on va dire, une sorte de feuille de route du mandat qui sont nos politiques publiques. Donc, je ne vous les décris pas, ce sont des politiques publiques au nombre de 10, qui sont assez classiques hein, en faveur de l'éducation. Qu'allons-nous faire? Comment, quels engagements prenons-nous au service de l'emploi? Quels engagements prenons-nous? Etc., etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en chapeau de ces 10 politiques publiques, nous avons pris des engagements de transition écologique. On vient d'en parler, d'en citer quelques-uns, mais il y en a quelques autres. Et on a pris l'engagement de transition numérique. Pourquoi? Tout simplement parce que on s'inscrit véritablement sur ce deuxième mandat. On est, pour notre équipe, à notre deuxième mandat, dans une politique de modernisation de la collectivité, de transformation digitale de la collectivité, faire en sorte que l'on soit plus efficace vis-à-vis de nos concitoyens avec encore plus de bien-être au travail de nos agents. Donc, cette transformation, c'est un de nos premiers actes dans le cadre de la digitalisation et de la transition numérique de la collectivité. Le deuxième, c'est l'accès au Wi-Fi dans tous nos bâtiments publics, permettre à tous nos concitoyens d'avoir accès gratuitement à du Wi-Fi quand ils sont dans des bâtiments publics. Et le troisième axe, c'est évidemment la réduction de la fracture numérique. Et dans cet esprit, on a recruté un conseiller numérique de territoire avec l'aide de l'État qui nous accompagne de deux façons. La première, par une petite subvention qui ne finance pas la totalité du poste, mais qui en finance une grande partie. Et par une formation que tous ces jeunes reçoivent et qui vise à accompagner tous nos concitoyens éloignés du numérique par de la formation, alors collective bien sûr, mais aussi à domicile pour les plus âgés. Et vraiment, ces trois axes, on les a travaillés, on va dire, concomitamment depuis le début du mandat.
Très bien. Alors, depuis quelques semaines, le conflit en Ukraine fait la une de l'actualité. Quel rôle peuvent jouer les maires dans cette crise?
Alors, j'ai envie de dire qu'elle est assez proche du rôle que nous avons joué dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, en ce sens que on voit que ben, le prendre soin est vraiment est pris en compte par les maires, parce que c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Alors, cette crise en Ukraine, elle engendre l'accueil de réfugiés. Pour l'instant, nous avons 3 familles de réfugiés qui ont été... Alors, nous, l'organisation et le fléchage sur les communes de ces réfugiés est géré par Toulouse Métropole, qui est notre intercommunalité. Et nous avons donc une direction de la cohésion sociale, CCAS, à l'intérieur, qui accompagne ces familles avec des partenaires. Là encore, quand je vous parlais d'environnement, de biodiversité, d'écologie, je vous disais qu'on travaille en partenariat. Mais là encore, on travaille en partenariat avec le Secours populaire, le Secours catholique pour l'alphabétisation, le Secours populaire pour tout ce qui est nourriture, vêtements, et notre CCAS pour faire en sorte que l'intégration de ces familles de réfugiés se passe le mieux possible. Dans tout ce qui touche aux démarches administratives, l'accès aux droits, la scolarisation des enfants de ces familles. Donc, c'est pas exactement de la même nature, bien sûr, que ce que l'on a fait dans le cadre de la pandémie, mais c'est cette écoute des besoins par rapport à une crise de notre population. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on invente de nouveaux modes de faire. On sent, et on a cette chance, à Saint-Orens, notre population et nos concitoyens intéressés par l'accueil. Nous avons 30 familles qui se sont signalées comme acceptant d'accueillir des familles de réfugiés. On en est à 3 aujourd'hui, parce que la métropole de Toulouse est grande, on est 37 communes. Et puis, on pense à l'échelon métropolitain que petit à petit, l'intégration, si elle se fait pas massivement, mais si chaque commune en accueille 3, puis 3, etc., cette intégration se fera de façon plus fluide et plus efficace.
Alors, conséquence de cette crise, beaucoup de communes rencontrent des difficultés financières liées à l'augmentation du prix de l'énergie. Quelle est la situation dans votre commune aujourd'hui?
Alors, oui, l'augmentation des énergies nous a amené de façon évidente, quand on a voté le budget, à voter un budget avec nos dépenses énergétiques supérieures. On a été très prudents, on a voté un budget avec entre 15 et 20% d'augmentation des énergies pour être prudents sur cette année 2022. Donc, cette anticipation participation, elle était absolument nécessaire. Heureusement, on a voté notre budget en début d'année. On était relativement informés. Donc, on est sécurisé sur le plan financier. Parce que c'est fondamental, vous savez, on va équilibrer nos comptes, une collectivité. Et quand on a un coup dur comme cette augmentation des énergies, ben, c'est absolument nécessaire de l'anticiper. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a déjà entamé un certain nombre d'actions en matière de rénovation énergétique de nos bâtiments. Et que, comme on est dans une logique de développement durable, de prise en compte de l'environnement, de réduction d'économie d'énergie, on a mis en place des outils d'économie d'énergie déjà, on ne fait qu'accélérer ces dispositifs. Et l'innovation digitale et numérique, en ce sens, elle rejoint les enjeux d'économie d'énergie, parce que si vous mettez des capteurs sur tous vos bâtiments municipaux, ce qui n'est pas encore le cas pour nous, et on est dans une démarche de progrès sur ce sujet, vous voyez bien que vous pouvez automatiquement et de façon centralisée avoir un agent qui éteint quand les bâtiments sont trop chauffés ou quand les bâtiments sont allumés alors qu'ils devraient être éteints, et que donc là, la transition numérique, elle est vraiment au service de la transition énergétique.
Très bien. Je vous remercie, Madame la maire.